RFI, 11h30 en temps universel, il est 13h30 à Beyrouth.
Nemo en piste.
Midi et demi, ici à Paris, RFI Midi, c'est parti. Nous sommes ensemble pour 2 heures en ce mercredi 27 novembre 2024. À la une, l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, c'était cette nuit, sous l'impulsion notamment des États-Unis et de la France. On y revient évidemment en profondeur dans nos journaux et on en parle aux alentours de 13h15, heure de Paris, avec notre invité Nadi Mouri, directeur exécutif du think tank Arab Reform Initiative et avocat spécialisé dans les droits humains. Avant cela, vous en avez l'habitude, nous sommes sur le vieux continent. Les députés européens viennent à l'instant d'approuver la composition de la nouvelle Commission européenne. L'Est de l'Europe et la Roumanie dans un instant également. Le pays a sans cesse besoin de travailleurs immigrés après le départ de millions de Roumains ces dernières années. Et nombre de ces travailleurs sont motivés par l'attractivité locale, les salaires corrects, estiment-ils pour la plupart, et par des permis de séjour à long terme.
J'étais sûr de l'obtenir étant donné que je n'ai plus quitté le pays depuis 10 ans. Bien sûr que je vais rester en Roumanie. Vous imaginez, cela fait 14 ans que je suis venu dans ce pays. Après, bien entendu qu'il y a des chances que je parte à nouveau ponctuellement pour travailler à l'étranger et gagner davantage d'argent. Mais mon but est de revenir ici, acheter une propriété ou ouvrir une affaire à moi.
Reportage à Timișoara de Benjamin Ribou dans quelques instants. À 12h30, temps universel, votre rendez-vous africain, Afrique Midi, avec Nicolas Sûr et le président congolais Félix Tshisekedi qui évoque pour la première fois un changement plutôt qu'une révision de la constitution. Nous appellerons Kinshasa. Le continent africain et la guerre au Soudan qui se poursuit. Pour la fin de sa série de reportages à l'occasion de 19 mois de guerre, notre reporter Elliot Brachet s'est rendu à Port-Soudan qui a naturellement suppléé Khartoum en tant que capitale. Reportage auprès d'artistes déracinés qui racontent, à travers leur passion, la seule arme qu'il leur reste, les horreurs de la guerre en cours.
Cette guerre a des racines historiques, politiques, économiques. Mais la cause grave et la plus négligée, c'est le manque de culture. Alors, nous les artistes, devons jouer notre rôle. Notre art est une arme qui combat la propagande, les mensonges. C'est une forme de résistance. La seule solution, c'est la négociation. Au Soudan, nous avons connu de nombreuses guerres. Aucune ne s'est terminée par la voie des armes.
Pour Soudan, havre pour les déplacés de la guerre. Diffusion dans un peu moins d'une heure sur la radio du Monde. RFI Midi, vous avez le programme, bienvenue.
RFI. L'Europe à midi.
Le Parlement européen vient donc d'approuver la nouvelle équipe de la Commission européenne. Le vote vient de se tenir. 370 voix pour, 280 voix contre. Nouvelle équipe composée après de nombreuses tractations entre les partis européens. Et le résultat de ces négociations mène à une coalition qui va du centre-gauche à l'extrême droite, sans éviter un psychodrame chez les sociaux-démocrates. Bonjour Théo Renaudon.
Bonjour.
Théo, peut-être rappelons d'abord ce que c'est cette Commission européenne.
Oui, la Commission européenne, c'est la branche exécutive de l'Union européenne. En gros, elle a trois missions. 1. Rédiger les projets de loi qui seront ensuite votés par le Parlement. 2. Faire appliquer ces lois, veiller à ce que chaque État membre de l'UE respecte les règles. Et puis 3. Enfin, représenter l'Union européenne à l'international. Pour faire ça, ils sont 27 commissaires proposés chacun par un pays de l'UE. Ils ont tous leurs spécialités, l'agriculture, la justice, l'égalité, la diplomatie, etc. Un peu comme un gouvernement, sauf la grande chef, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui, elle, a été de nouveau désignée il y a 5 mois pour 5 ans.
Et donc, pour sa nouvelle équipe, Ursula von der Leyen a dû composer avec de nombreuses couleurs politiques.
Oui, il faut obtenir une majorité de voix au Parlement pour que cette nouvelle équipe soit désignée. Pour ça, les négociations ont été difficiles. Plusieurs noms ont posé problème. Teresa Ribera, ministre socialiste espagnole, par exemple. La droite n'en voulait pas, pointant du doigt les inondations en Espagne. Ursula von der Leyen ne pouvait pas aussi se passer de la puissante extrême droite au Parlement européen, extrême droite italienne. Elle a donc nominé au poste de vice-président Raffaele Fitto, membre du parti de Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres italien. connu pour ses positions anti-immigration, des positions jamais vues à la tête de la Commission européenne.
Et c'est, Théo, cette nomination qui a divisé la gauche européenne.
Oui, l'extrême droite à la Commission, ça ne passe pas du tout, mais alors pas du tout pour de nombreux députés européens de gauche, comme l'écologiste Marine Tondelier.
On vit une rupture historique, on est en train de créer un précédent absolument tragique qui orientera le cours de l'histoire. La réalité, c'est que la droite européenne regarde d'un côté, quand ça les arrange, vers une majorité pro-démocratique, et quand ça les arrange pas ou quand ça les arrange mieux ailleurs, eh bien, ils se tournent vers l'extrême droite sans honte, sans aucun respect des principes démocratiques, en rupture complète avec le cordon sanitaire qui prévalait jusqu'ici au niveau de l'Union européenne. C'est une vraie régression.
Micro tendu à Strasbourg par Daniel Valo. Malgré cette position, de nombreux autres eurodéputés de gauche ont voté pour cette commission au nom de la stabilité européenne dans un contexte international tendu.
Et oui, puisque cette nouvelle commission qui va prendre ses fonctions dans quelques jours devra faire face, Théo, à de nombreux défis.
De nombreux défis qui tiennent en 5 lettres. T-R-U-M-P. Trump, il arrive dans 50 jours à la Maison-Blanche, de front, la guerre commerciale qu'il déclare à l'Europe et la sécurité avec un possible désengagement américain en Ukraine.
Les explications très complètes de Théo Renaudon du service international de RFI.
RFI Midi, toute l'actualité.
C'est l'une des conséquences du fort vent d'expatriation qui a soufflé sur la Roumanie ces 2 dernières décennies. 5 millions de personnes ont quitté le pays sur cette période. Alors forcément, le nombre de travailleurs venus de l'étranger pour boucher les trous de son marché du travail ne fait qu'augmenter. Sur l'année écoulée, ils étaient près de 90 000, ces travailleurs, à venir de pays hors Union européenne. Benjamin Ribou s'est rendu dans la ville de Timișoara, 4e du pays, située non loin des frontières serbes et hongroises. Une ville qui a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Reportage.
Ali est afghan. Voilà 15 ans qu'il a quitté son pays et la province de Ghazni, où il combattait les talibans. Son exil devait le conduire en Norvège, mais il a été arrêté dans son parcours dans un pays dont il ne connaissait même pas l'existence, la Roumanie. Les débuts ont été difficiles, mais aujourd'hui Ali ne veut plus quitter la Roumanie car elle est devenue plus attractive pour les salaires et les opportunités.
C'est en Roumanie qu'il y a le plus d'emplois. En une demi-heure, tu trouves du travail dans n'importe quel domaine. Tu n'as qu'à ouvrir Internet, c'est très facile. Par contre, il ne faut pas être trop exigeant. Si tu t'attends à gagner 2000 euros d'emblée, tu peux toujours courir, ça n'arrivera pas. Il te faudra 10 ans, et encore. Mais si tu acceptes un petit salaire et que tu montres ce que tu sais faire pour l'entreprise, tu verras que ton salaire augmentera. Pour moi, aujourd'hui, ça va. Lors de mon dernier contrat, j'avais 1 500 euros bruts pour vivre en Roumanie. C'est acceptable. Même si ça commence à être un peu juste, c'est vrai, notamment car je viens d'avoir un enfant et que rien que pour le loyer, j'en ai pour 400 euros.
Ali bénéficie actuellement du généreux congé de paternité roumain, 2 ans, à 80% de son salaire. Même s'il sait bien que la Roumanie investit moins que les pays d'Europe de l'Ouest pour former sa main-d'œuvre étrangère, il voit bien qu'ils sont de plus en plus nombreux à débarquer ici légalement, du Pakistan, d'Inde, du Sri Lanka. Ces migrants économiques sont recrutés par des agences pour travailler dans la construction, dans des restaurants ou comme livreurs. Sur la base d'un contrat de travail, ils reçoivent un permis de séjour temporaire, souvent un logement et un salaire qu'Ali estime aux environs de 500 euros par mois. Mais pour cela, on ne compte pas ses heures. Ce matin, Ali est venu discuter de son allocation paternité au centre de résilience et de mobilisation communautaire, un espace financé par la mairie pour gérer l'afflux de réfugiés ukrainiens à Timișoara. Originaire d'Odessa, Irina est arrivée le 26 février. Elle parlait déjà le roumain avant de venir et elle fait de la traduction pour aider ses compatriotes à s'intégrer et trouver un travail.
Beaucoup de patrons profitent du fait que ces personnes ne sont pas suffisamment bien informées sur la législation ou sur le marché du travail ici. Cela rend leur situation très difficile, car ils ne se sentent pas protégés et ne connaissent pas leurs droits. C'est dommage. Le pays est plutôt bien, les gens aussi, mais leur venue n'est pas perçue comme une opportunité. Ce sont pourtant des gens qui veulent travailler et faire des choses ici.
Irina estime qu'il y a 2000 réfugiés ukrainiens à Timișoara aujourd'hui. Ses compatriotes savent bien qu'en Europe de l'Ouest, les salaires et les perspectives d'évolution sont meilleures. Beaucoup choisissent pourtant de rester ici pour garder une certaine stabilité dans un pays proche culturellement. Faute de diplôme reconnu, il travaille dans la restauration, l'hôtellerie ou font des ménages. Annika, 28 ans, est originaire de Transcarpathie en Ukraine, région frontalière de la Roumanie.
Nous, on est venus 3 mois avant le début de la guerre pour travailler dans la construction, mon mari et moi. Normalement, je pose du mastic, de l'enduit. Mais là, je suis enceinte. On a toujours fait ça, un coup à Moscou, un coup en Roumanie. Chez nous, il n'y a jamais de travail. Et ici, on touche 35 dollars par jour, au noir. À Moscou, c'était mieux payé peut-être, mais ici, c'est plus facile car on y parle roumain et c'est notre langue maternelle. Pour notre plus grand à l'école, c'est mieux aussi.
Contrairement aux réfugiés ukrainiens, le nombre de migrants économiques des pays hors UE pouvant venir travailler en Roumanie est fixé chaque année. Et pour eux aussi, il y a des difficultés. Angela Ciuparad, directrice du centre.
Le nombre de migrants a fortement augmenté, mais les capacités de prise en charge des services de l'immigration n'ont pas augmenté, ce qui a conduit à de très gros blocages. On ne s'est pas posé la question de leur intégration chez nous et comment adapter tous nos systèmes publics d'assistance sociale, de santé et d'éducation. Par exemple, on n'a pas réfléchi au fait qu'après un certain temps, ils allaient faire venir leur famille ici.
Angela constate que dans d'autres villes aussi, les choses bougent dans la bonne direction. Le manque de connaissance du pays est un gros handicap pour ces travailleurs, qui sont des proies faciles pour certains employeurs peu scrupuleux. Les estimations concernant le travail au noir varient considérablement, allant de 500 000 à 1,5 million de travailleurs non déclarés. Plus fiables, les chiffres de l'économie informelle. Pour la seule année 2022, celle-ci représentait 29% du PIB roumain, selon un rapport commandé par une commission du Parlement européen.
Reportage de Benjamin Ribou à Timișoara en Roumanie, à retrouver dès ce soir dans Accent d'Europe à partir de 19h10, temps universel.
RFI Midi, Berlin, 96.7 FM.
La scène culturelle berlinoise en émoi, alors que la ville doit faire de sérieuses économies qui n'épargnent aucun secteur. Bonjour Pascal Thibault.
Bonjour.
Vous êtes en Allemagne pour RFI, dans cette capitale européenne qui n'a pas, et de loin, le même poids économique et financier que Londres ou Paris, par exemple. La culture est essentielle pour l'image de Berlin.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de réactions, d'émoi, vous le disiez, dans le monde culturel berlinois. Récemment, dans un quotidien, c'était l'ancien directeur de l'opéra comique Berlin en compte 3, le metteur en scène juif australien Barry Kosky, qui déclarait « n'achevez pas le travail que les nazis ont commencé ». Il s'adressait aux responsables de la municipalité berlinoise. La ville doit faire des économies budgétaires substantielles, plusieurs milliards d'euros doivent être économisés et cela touche aussi le secteur culturel qui fait partie de la carte de visite de Berlin. Le réveil est donc dur alors que durant ces dernières années, eh bien, on a plutôt ouvert les mannes budgétaires ici. Ça valait aussi pour le secteur culturel qui doit en 2025 faire 12% d'économie, soit 130 millions d'euros pour les opéras, les théâtres, les musées et les autres institutions culturelles subventionnées. Depuis, protestations, pétitions, manifestations, s'accumule. La mobilisation est forte pour obtenir des concessions de la municipalité berlinoise gérée par une coalition alliant chrétiens et sociaux-démocrates. L'adjoint à la culture CDU est particulièrement attaqué et se voit accusé de ne pas suffisamment avoir défendu son secteur et de ne pas avoir réfléchi à des économies structurelles pour éviter des coupes budgétaires perçues comme aveugles.
Précision depuis Berlin, signé Pascal Thibault. De l'Asie centrale au Turkistan, c'est une modification qui n'est pas vraiment passée inaperçue en Turquie. Dans les établissements scolaires notamment et dans les livres d'histoire, les programmes désignent désormais la région sous le nom de Turkistan. Comprenez en français le pays des Turcs, une évolution qui illustre l'influence toujours plus forte de l'extrême droite dans le pays. Et elle n'est évidemment pas au goût de la Russie. RFI Ankara, Anand Loer.
Orta Asya yerine Türkistan kavramı getirildi.
Orta Asya değil, Türkistan.
Orta Asya yerine Türkistan ifadesi kullanılacak.
Pas Asie centrale, Türkistan. Début octobre, en Turquie, les chaînes d'information proches du président Erdogan et de son allié d'extrême droite, le Parti d'Action Nationaliste, ont chaudement salué la nouvelle. Dans les manuels d'histoire, on enseigne désormais qu'il faut dire « Turkistan », littéralement « pays » ou « terre des Turcs », pour désigner l'Asie centrale. Sur les réseaux sociaux, certains médias en ligne reprennent l'information pour mieux la justifier. « Asie centrale » serait une expression de propagande russe pour effacer de ces régions la longue histoire des peuples turcs. Une histoire dont la Turquie serait en quelque sorte la dépositaire. Exemple sur la chaîne de Fikriyat, maison d'édition de référence pour la pensée islamique turque.
L'expression Asie centrale s'inscrit dans le cadre des politiques d'assimilation mises en œuvre depuis des siècles par l'administration russe à l'égard des États et des peuples turcs. L'objectif est de supprimer le mot « Turkistan » de la langue des Turcs et de rendre ces peuples étrangers à leur propre terre. L'Asie centrale est un terme géographique. On ne peut pas dire que le concept d'Asie centrale soit erroné, mais il est très important de promouvoir le terme « Turkistan » afin de garder vivante la riche histoire du Turkistan. C'est une prise de position face aux politiques d'effacement identitaire.
Les Turcs sont bel et bien originaires d'Asie centrale. Guerriers nomades, leur histoire commence au 5e siècle dans les steppes de Mongolie et les mènera en Anatolie au début du 2e millénaire, cette Anatolie qui forme l'essentiel du territoire de la Turquie moderne. Mais chez les plus nationalistes, l'attachement national se double d'une adhésion à l'idéologie pan-turquiste, une appartenance bien plus vaste, à la grande famille ethno-linguistique des peuples turciques. Une famille dont le berceau, l'Asie centrale, mériterait donc le titre de « pays des Turcs ». Evrim Gulez est secrétaire d'éducation d'Eğitim Sen, principal syndicat des enseignants de gauche.
Le gouvernement porte une conception uniformisante qui rejette complètement les différences. Il existe de nombreuses nations, de nombreuses langues et de nombreuses religions en Asie centrale. Mais le pouvoir actuel prône une vision qui efface tout cela derrière le seul étendard du nationalisme turc. En d'autres termes, le mot Turkistan, c'est le résultat d'une conception qui rejette tous ceux qui ne sont pas turcs et qui ignore toutes les religions qui ne sont pas de la croyance sunnite hanafite. Malheureusement, en disant Turkistan à la place d'Asie centrale, la seule chose que nous enseignons à nos enfants, c'est le nationalisme.
Cette énième polémique intervient au moment où enseignants et élèves turcs ont découvert à la rentrée les nouveaux programmes scolaires. Ceux-ci ambitionnent de former, je cite, « des générations morales et vertueuses ayant pour idéal d'être utiles à la nation ». De l'école maternelle au lycée, chaque cours est censé promouvoir un certain nombre de valeurs présentées comme nationales. Par exemple, les cours d'histoire, ceux dans lesquels les élèves étudient le Turkistan en lieu et place de l'Asie centrale, doivent transmettre le patriotisme. Une lecture très nationaliste qui n'a rien de nouveau, mais que 22 années de pouvoir du Parti de la Justice et du Développement, l'AKP, allié depuis 8 ans à l'extrême droite turque, ont exacerbé. Fatma Gök, spécialiste de l'histoire des politiques éducatives, lie cette transmission forcée d'un nationalisme pan-turquiste à la permanence de la question kurde.
S'il y a une question non résolue en Turquie, c'est bien la question kurde. Le nationalisme sert à légitimer les interventions de l'État dans les régions à majorité kurde de Turquie et de l'autre côté de la frontière. Et même si cette veine nationaliste a toujours existé, le pouvoir actuel l'a portée à un tout autre niveau après l'échec des derniers efforts de paix en 2015. La non-résolution de la question kurde est un obstacle majeur pour ceux qui prônent une société et une éducation égalitaire et respectueuse des libertés en Turquie. Ce n'est que le jour où ces problèmes seront résolus que nous serons en mesure de mettre en place des politique éducative plus démocratique pour une société plus démocratique.
Dans les médias russes, la promotion du Turkistan a été fraîchement accueillie. Certains accusent Ankara de menacer les intérêts de la Russie en Asie centrale et même de vouloir former une coalition anti-russe. Sans surprise, l'initiative n'est donc pas du goût des cercles pro-russes en Turquie, ceux qu'on appelle les eurasistes. C'est le cas par exemple de l'universitaire Cüneyt Akalın, interrogé par la chaîne eurasiste Ulusal Kanal.
Quand vous essayez de réécrire l'histoire, comme le font les responsables du ministère de l'Éducation nationale, vous risquez d'en payer le prix, car d'autres pourraient faire pareil et décider par exemple d'appeler à nouveau Constantinople notre belle Istanbul. Il pourrait aussi y avoir des conséquences en politique étrangère. Ces grands mots peuvent plaire plaire à certains cercles, mais ils peuvent aussi faire beaucoup de tort à la Turquie.
Des critiques qui n'empêchent pas la Turquie de mener une politique d'influence de plus en plus active en Asie centrale, au moyen de coopérations économiques, militaires et culturelles. L'invasion russe de l'Ukraine semble même avoir donné un nouvel élan à ses visées centra-asiatiques.
Le reportage d'Anand Loer à Ankara, en Turquie, également à retrouver ce soir dans Accent d'Europe.
RFI Midi. Un monde de tech.
Un monde de tech. Bonjour Dominique Dezonnet.
Bonjour Néo.
Direction l'Australie où c'est désormais officiel, c'était même il y a quelques heures, les moins de 16 ans ne pourront plus se connecter sur les réseaux sociaux. La mesure voulue par le Premier ministre Anthony Albanese a, dans la foulée, suscité de nombreuses critiques en ligne, notamment de la part des experts en cybersécurité. Eux, Dominique, estiment que les technologies pour contrôler l'âge des internautes sont inefficaces.
Oui, d'autant que dans son projet de loi, le ministre australien avait choisi plutôt de confier aux plateformes sociales la responsabilité de s'assurer que leurs utilisateurs ont l'âge requis. La responsabilité n'incombe pas aux parents ou aux jeunes. Il n'y aura pas de sanctions pour les utilisateurs, a martelé le ministre auprès des députés australiens en insistant sur les effets délétères que produisent les médias sociaux sur la santé mentale des jeunes internautes.
Rendons aux enfants leur enfance. Donnons aux parents une nouvelle tranquillité d'esprit. Travaillons ensemble. Adoptons cette législation à la Chambre des représentants et au Sénat cette semaine et nous pourrons en être très fiers.
Et Dominique, l'interdiction des réseaux sociaux aux adolescents australiens de moins de 16 ans serait l'une des mesures de protection des enfants en ligne les plus contraignantes au monde.
Car son adoption par les députés aujourd'hui même rend illégale l'utilisation par les moins de 16 ans de X, de TikTok, Facebook, Instagram et même de YouTube, qui est aussi concerné par cette législation. Et les amendes, en cas de non-respect, peuvent aller jusqu'à 31 millions d'euros. Pour estimer l'âge d'un utilisateur, les plateformes sont désormais autorisées à procéder à un scan du visage ou de la voix d'un internaute, un procédé technique qui est facilement contournable et fait encore beaucoup trop d'erreurs, estiment toutefois les experts en cybersécurité. À ces problèmes technologiques s'ajoute aussi celui de priver la jeune génération de plateformes sur lesquelles ils s'informent, estime une centaine d'universitaires qui fustigent en ligne la décision du gouvernement, l'exhortant plutôt à privilégier l'éducation des jeunes internautes aux médias numériques.
Et on le sait, des lois similaires ont déjà été tentées dans le monde, mais vous nous dites, Dominique, qu'aucune n'a pour l'instant abouti.
Oui, au Royaume-Uni par exemple, le projet de loi qui consiste à imposer aux constructeurs de téléphones portables d'intégrer des dispositifs de protection pour les mineurs avant leur mise en vente est toujours en discussion. Mais depuis des mois, tant en Europe qu'aux États-Unis, les pressions s'intensifient contre ces grandes plateformes numériques afin de les contraindre à mettre en place des mécanismes pour protéger la santé mentale des adolescents. Et parfois, les menaces de procès contre les médias sociaux fonctionnent. Les régulateurs européens du numérique ont ainsi obtenu du chinois TikTok de faire le ménage dans ses filtres de trucage photo et vidéo. Le réseau social annonce ce mercredi que les filtres beauté permettant d'ajouter sur ses selfies un maquillage virtuel déformant les traits du visage ou les yeux des internautes ne seront plus accessibles aux mineurs d'ici à la fin de l'année.
Merci Dominique Dezonnet. On vous retrouve demain pour un nouveau monde de tech. RFI midi 52 ici à Paris. Nous sommes le mercredi 27 novembre, mercredi jour de sortie cinéma en France. Et aujourd'hui dans les salles sombres, Rabia de la réalisatrice allemande Marieke Engelhardt. Un film qui plonge le spectateur dans l'enfer syrien d'une madafa, ces maisons d'épouses destinées aux guerriers djihadistes. Le personnage principal du film, une jeune française endoctrinée jouée par Megan Norton, et face à elle, la puissante et féroce patronne de la madafa, incarnée à l'écran par Lubna Azabal, invitée d'Elisabeth Le Carré.
Installez-vous ici, c'est le coin des Françaises.
Vous l'avez déjà vu,
madame?
Ouais.
Si Allah il devait avoir une femme, ce serait elle.
Lubna Azabal, bonjour.
Bonjour.
Dans Rabia, vous êtes la patronne d'une madafa, donc ces maisons où sont enfermées les femmes célibataires ou veuves en attente d'être mariées. Donc c'est le hors-champ de la guerre, puisque de toute façon, le point de vue des femmes est souvent hors-champ. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à dire oui ?
Oui, d'abord après avoir rencontré Marieke, avoir eu une longue discussion avec elle.
Et puis, j'ai vu qu'elle était vachement documentée, que c'était basé sur des faits réels, des rencontres. Et puis, le personnage qu'elle me proposait, celui de Madame, qui existe bel et bien dans la réalité. Et c'était quelqu'un que je connaissais à travers les journaux.
Qui s'appelle Adam, qui est marocaine.
Elle s'appelle Fateha Medjahati, qui est d'origine marocaine.
Et alors, qu'est-ce que c'est une madame dans ce lieu très particulier? Parce que c'est à la fois une prison, une maison close, une auberge de jeunesse. En fait, c'est là qu'on reçoit toutes ces jeunes femmes venues d'Europe et au-delà qui veulent rejoindre Daesh.
Je crois que c'est en plusieurs étapes. Au départ, c'est un peu comme une auberge de jeunesse. C'est un peu l'auberge espagnole, d'ailleurs. Elles arrivent de toutes parts. Ça parle anglais, français, espagnol, arabe, enfin, italien, anglais. Et puis après, ben, on les marie. Et en fait, au final, c'est une maison à génitrice, quoi. Donc en fait, c'est pour agrandir ce qu'on appelle la Oumma.
La communauté des croyants.
La communauté des croyants, voilà. Pour fabriquer ce fameux État islamique.
Qu'est-ce qui t'arrive, Oumraba? Est-ce que tu aurais oublié les règles? Rentrer en France, ici c'est un plus grand destin qui t'attend.
Et celle qui dirige tout ça, c'est votre personnage, madame, Loumna Azabal. Comment on entre dans ce personnage? C'est-à-dire, est-ce qu'on lui construit une biographie? Est-ce qu'on lui construit une psychologie?
C'est un panel, donc je prends un tas d'informations qui pourraient m'aider à me nourrir. Et elle, j'ai quand même énormément... J'ai recherché tous les articles possibles et imaginaux autour d'elle, dans les journaux arabes de l'époque... Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'incarnation du mal. C'est pas un bourreau comme les autres, cette madame. Parce qu'il y a, par exemple, le personnage Jessica, qui est incarné magnifiquement par Megan Nordam, qui devient bourreau dans le film. Mais elle devient bourreau, c'est un mélange de syndrome de Stockholm, d'instinct de survie, de s'asservir total à cette madame jusqu'à devenir pratiquement son bras droit. Mais elle a de l'humanité encore dans le regard.
C'est un animal à sang chaud, alors que votre personnage est plus nuancé.
Pour moi, c'est une psychopathe. Elle a quelque chose. Elle n'a pas d'empathie. Elle ne ressent pas la douleur de l'autre.
Comment on entre dans la peau d'une psychopathe, Loumna Azabal?
En fait, on s'enferme. Et puis, petit à petit, j'ai réfléchi beaucoup. Après, pour sortir de ça, non, j'ai qu'une seule envie, c'est de... Je me mets en sas de décompression pendant quelques jours. J'ai besoin de revider tout ce que j'ai emmagasiné, tout ce que j'ai appris en moi, pour après redevenir moi, vraiment moi, avoir mes potes, boire des coups... sortir, faire des grosses bouffes et faire ce que j'aime, la fête en fait. Voilà.
Loumna Azabal, merci beaucoup.
Merci à vous RFI.
Loumna Azabal avec Elisabeth Le Quéré du service culture de RFI. Entretien à retrouver sur l'application RFI Pure Radio. Midi 57 ici à Paris. Dans une grosse demi-heure, le retour de l'actualité africaine avec Nicolas Sur. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nemo.
Et à la une d'Afrique Midi.
En Côte d'Ivoire, l'entreprise Endeavour Mining annonce la découverte d'un gisement aurifère de classe mondiale à Tanda dans l'est du pays. Production attendue 11 tonnes d'or par an, capacité totale estimée à 150 tonnes. Et puis la Namibie vote aujourd'hui pour des élections à fort enjeu. La candidate de la SWAPO au pouvoir depuis l'indépendance pourrait devenir la première femme présidente du pays. Mais elle pourrait aussi être contrainte à un second tour inédit.
Rendez-vous midi 30, temps universel pour Afrique Midi. À tout à l'heure, Nicolas. Dans deux petites minutes, le retour de l'actualité internationale. Avant cela, une petite pause musicale. On écoute Kuchi Kuchi par Sima Funk. C'est en playlist RFI.
Pégate así, verás como
Kuchi Kuchi, Sima Funk en concert ce vendredi 29 novembre à l'Élysée Montmartre à Paris. Vous retrouvez également le titre en playlist RFI. Dans un instant, le retour de l'actualité internationale.